Alors, crise du logement, on a eu les chiffres hier et on résume ça de façon assez simple. C'est de plus en plus dur de trouver un logement, puis quand on en trouve un, c'est de plus en plus cher.
Donc, on utilise le mot crise pour n'importe quoi aujourd'hui, fait qu'on ne sait plus quand est-ce que c'est une vraie crise, puis quand est-ce que c'est une vraie bombe météo non plus, on ne le sait plus. On ne sait plus quand est-ce que ça va mal. Là, ça va mal. Là, ça va vraiment mal à Montréal. 1,5% de taux de vacances, mais il n'y a pas juste ça. Là. Il y a le fait que les hausses incontrôlées des prix des logements neufs. On parle de, dans la région de Montréal, sur l'île de Montréal, un condominium moyen autour de 850 pieds carrés à 430 000. Mais si tu t'approches un peu du centre, Rosemont, Plateau, même maintenant, c'est rendu au Hochelaga-Maisonneuve, Verdun, Sud-Ouest, tu pognes facilement, tu dépasses facilement le 500 000 quand c'est pas 600. Et là, oublie ça, pour les gens normaux de la base, là, pour tout le monde, de s'acheter un logement. Le manque de logements locatifs, ça, avec les évictions, les rénovictions dans tous les quartiers, compte tenu du fait que ça vaut tellement cher un logement neuf, évidemment, les propriétaires ont tendance à vouloir récupérer les logements, soit pour les vendre sur le marché comme condo, soit pour augmenter les prix. Je raconte souvent au coin de ma rue un logement qui a été repris, a été divisé en deux, puis la partie avant est louée 2 900 $, puis elle est louée tout le temps. Parce qu'il y a 50 000 immigrants qui viennent à Montréal et, par année. Et l'immigration n'a pas diminué malgré les intentions de M. Legault. Au contraire, l'immigration temporaire, celle des travailleurs, a beaucoup augmenté. Ils sont prêts à payer des prix extrêmement élevés. Il y a les évictions, évidemment, j'en ai parlé. Puis il y a l'étalement urbain. Alors, quand tu ne peux plus acheter, tu te reportes dans la deuxième ceinture, puis dans la deuxième couronne, puis la troisième couronne. Après, on se demande comment ça se fait qu'on a tant de problèmes de congestion. Et tout cela s'est produit alors qu'on a construit un record de logements à Montréal, 10 000 logements dans la région de Montréal. Alors, c'est quoi? Comment ça se fait qu'il y a une crise? Bien, c'est parce que ces logements-là ne répondent pas aux besoins de la population. Ces logements-là ont été construits soit pour les personnes âgées qui vont dans des centres pour personnes autonomes à 1 700 $ par mois minimum, ou alors pour des investisseurs au centre-ville. Je vous invite à passer dans le centre-ville puis regarder les tours de logements qui ont été construites puis compter le nombre de lumières qui sont allumées le soir. Puis vous allez voir que c'est bien moins que 20 % des lumières qui s'allument le soir. Alors, beaucoup de ces logements-là sont pour des fins d'investissement ou un pied à terre, mais ce ne sont pas des résidences principales pour des familles.
Okay.
Dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de construction locative. C'était une classe d'actifs qui n'était pas très rentable pour plusieurs raisons. Les gens vont bien sûr parler contre la régie des logements qui rend un investissement dans ce secteur-là relativement complexe. Mais il se trouve que Montréal est l'endroit au Canada où le taux de locataires est le plus élevé. Et ça, il ne faut pas perdre de vue que c'est le cas. Et l'endroit où il y a eu le moins de construction en logement locatif, particulièrement dans les 2 et 3 chambres à coucher. Donc, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça rend Montréal un endroit où tu vas avoir plus de baby-boomers ou de célibataires. Puis après ça, effectivement, il y a un étalement urbain. Il y a des solutions qui existent. Ça va prendre un peu de courage. Ça va prendre une façon différente d'aborder les choses. Et ça va prendre une conciliation entre les différents niveaux gouvernementaux. Parce que c'est pas vrai que la Ville de Montréal, avec son projet 20-20-20, 20 % de locatifs, 20 % de logements abordables, puis 20 % de logements familiale va réussir à régler le problème. On en a déjà parlé dans le passé. Ça crée souvent plus de problèmes que ça en règle. Et ça va prendre un arrimage avec la vision fédérale et également un peu de vaseline du gouvernement du Québec pour s'assurer qu'on mette en place tout le financement pour arriver avec un projet ambitieux. Parce que le projet, là, c'est pas d'arriver puis de dire on va faire 10 000 logements locatifs. Ça en prend 50 000. Donc, 50 000, là, c'est un projet très, très, très important. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Puis, c'est pas vrai qu'on va compter sur 500 entrepreneurs qui vont en faire une centaine chaque, là. Ça prend un projet d'envergure. Et quand tu arrives avec des solutions, des situations comme ça, ben il faut que tu ailles vers où l'argent est. Parce que tout est une question de capital. La surchauffe dans le secteur, par exemple, des projets d'infrastructure, a fait que la Caisse de dépôt a décidé de lancer le REM. Et moi, je m'interroge aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas donner un mandat à des fonds de pension de réfléchir à un projet très ambitieux d'immobilier pour créer une classe d'actifs du départ, donc de créer des projets immobiliers et de dire on va investir massivement là-dedans, en offrant des retours qui ne seront pas des 20 % mais en offrant des retours qui vont être combinés avec de la SCHL, etc., etc., mais qui va nous permettre de régler en 5 ans, comme on le fait avec le REM, là. On va régler en 5 ans un problème de transport, on sera capable en 5 ans de régler le problème d'immobilier.
Avec le REM, on va régler un problème de transport dans l'ouest de Montréal pour les gens qui vont être capables de payer 6 $ et plus par passage. C'est une solution. C'est une solution. Puis moi, j'apprécie ton approche solution. Souvent, tu arrives avec des solutions puis que, auxquelles personne n'a pensé puis qui ne sont pas sur la table. Puis merci, c'est très bien. Je ferais juste un bémol sur cette solution-là, c'est que l'approche étatique où on dit on confie à une paramunicipale ou à une para-étatique ou une société de la couronne la construction, il ne faut pas tomber dans le défaut français qui a été de construire des barres de logement, sortir
les banlieues rouges. Là, c'est exact.
Il faut faire attention, ça s'est produit aussi aux États-Unis, ça s'est produit en Angleterre, il faut faire attention à ça. Moi, je pense qu'il y a aussi des solutions, des petites solutions qui doivent être petites. Pas des petites, des grosses solutions qui doivent être regardées à la base. Plusieurs sont mises de l'avant. Donc, il fallait absolument mettre fin à l'hémorragie Airbnb. 5 000 logements qui avaient disparu. Tu sais, 5 000 logements, c'est énorme. Et le problème, évidemment, c'est que le gouvernement du Québec a mis la bonne solution en place, mais pas les inspecteurs. Alors maintenant, ça continue. Ça continue. Business as usual. Il faut mettre les inspecteurs sur le terrain. Le deuxième, le 20-20-20, moi, je pense que c'est une très bonne chose. 20 % de logement social, 20 % abordable, 20 % familial. L'ennui, c'est que, là, je dois avouer, là, moi, c'est la raison un peu pour laquelle j'avais des désaccords avec la mairesse. C'est tout le temps cette approche très, 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 très prudente et progressive, même quand il y a crise. C'est que là, le 2020, il a été reporté à 2021. Et en 2021, les 10 000 logements qui ont été construits, là, ils ont tous été construits sans aucune obligation. Et quand tu vois que le 2020, là, d'abord les la consultation, après ça, on arrive à la prochaine élection. Je me demande si sa tendance, ce ne sera pas de dire ben, je vais le mettre après l'élection.
Ça va être bonjour le flip immobilier, cette affaire-là. Là.
Oui, c'est ça. Je suis un peu déçu de voir que c'est bon, mais que c'est reporté, tout comme par ailleurs, le programme de les 50 millions d'achats de terrain. Alors là, 50 millions d'achats de terrain. C'est une bonne affaire. Il faut acheter ces terrains-là. Puis après ça, quoi? Après ça, comment on fait? Il faut aller chercher des unités à Québec. Puis il faut. C'est pas ficelé pour avoir.
Et là, je vous écoute, là. Puis mettons que moi, je suis pas un promoteur immobilier. Puis je suis pas un ancien élu municipal. Puis je connais rien là-dedans, là. Mais là, je me dis, j'écoutais McSween, là, ce matin, qui dit, toi, tu veux investir, mettons, dans un triplex. Bien, avec la spéculation, donc l'augmentation du coût, avec les taxes.
Tu peux pas faire d'argent.
Tu feras pas une scène. Ou sinon, tu charges un prix élevé.
Ben oui, tu es obligé de charger.
Puis là, la personne te regarde, ben moi, j'ai pas de budget pour ça. Puis tu peux pas blâmer le propriétaire de dire, tu sais, je voudrais au moins fixer le réel. Là.
Ben, deux possibilités. Soit tu mets fin au marché privé. Soit tu te dis, mais on va intervenir pour fixer des prix. Et puis là, vous allez travailler en dessous de ce prix-là. Le privé aime pas ça du tout parce qu'il dit, ça entraîne de la mauvaise qualité ou ça entraîne de la non-rénovation. Les gens ne rénovent plus parce qu'ils savent que ça va leur coûter trop cher et ils n'iront pas chercher leur argent. Ou alors, tu investis publiquement. Et là, il y avait la solution d'Alexandre de dire on va le confier à une grosse organisation. Mais il y a aussi la solution classique qui ne fonctionne pas. Mais elle ne fonctionne pas, mais elle peut être réparée. C'est parce que pendant
là,
des années...
Quand tu me parles de la caisse de dépôt, là, on est-tu en train de penser à une espèce de, je sais pas moi, un paquet de tours d'habitation avec...
Pas nécessairement. Ça peut être des projets de plex. Ça peut être des projets de plex. Ça peut être des projets qui vont être gérés par une trentaine, quarantaine de promoteurs. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est l'accès au capital. Et la caisse de dépôt est assise sur énormément d'argent. Fonds d'action est assise sur énormément d'argent. Tout est une question de création d'offres.
Oui, mais ils vont avoir le même problème qui vient d'être évoqué. C'est-à-dire, ils vont être obligés de louer leur logement à 1800 $ le morceau.
Non, mais tu vas faire un deal avec la SCHL qui, lui, a des programmes incroyables. Le problème aujourd'hui avec la Ville de Montréal sur son 20-20-20 puis ses terrains qu'ils achètent, c'est qu'ils ont beau avoir ce petit argent-là, mais ils n'ont pas après ça le capital parce qu'ils n'ont pas la base foncière pour être capable
Attends,
de créer
mais,
ce que ça peut-tu, prend.
On peut-tu juste un point là-dessus?
Ben oui.
Là? Important. Pendant des années, Couillard a annoncé des logements sociaux et il ne les a pas construits parce qu'il avait fixé un coût de logement à 12 000 $ la porte pour l'achat puis la construction. C'était impossible de construire avec ça. Pendant des années, les grosses annonces, on va en faire tant, il n'y a rien fait. Maintenant, on est en en mode rattrapage. La CAQ veut faire ça, mais ne peut plus créer une nouvelle unité.
Ben, j'aurais aimé ça. Il y a une conférence de presse là, pour annoncer une coop d'habitation dans le centre-ville ou en tout cas dans Ville-Marie, à 1h cet après-midi.
J'aurais aimé ça de parler de densité, j'aurais aimé ça de parler de délai administratif, j'aurais aimé ça de parler de taxes de bienvenue.
Bon, on va prendre
tous des sujets qu'on va pouvoir aborder.
Ça fait trois sujets faciles, ça.
Facile.
Ouais, c'est ça.
OK, au retour, c'est bizarre quand même comme deuxième sujet, après ce dont on vient de parler. On a-tu raison d'être au Québec plus satisfait qu'ailleurs au Canada, ou si on est plutôt du genre qu'on se contente de peu? Nous aurons la réponse après la pause. Le tunnel La Fontaine.